Radio G 101.5 FM. Sur Radio G, tout de suite, c'est l'occasion de retrouver votre émission sportive de la grille. Tout de suite, c'est Génération Sport. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission de Génération Sport. On est donc le mardi 16 mai, on est ravi de vous retrouver avec toute l'équipe qui est présente aujourd'hui autour de la table. C'est une émission spéciale UFAB, voilà, c'est la dernière de la saison puisque voilà, les joueuses sont maintenant en vacances. Et pour l'occasion, on va recevoir Aurélie Bonan qui est avec nous dans l'émission. Avant ça, je vais présenter ceux qui vont m'accompagner pour cette petite heure de sport local. Faustin, à ma gauche, micro bleu. Salut Faustin, comment ça va?
Salut Alex, salut tout le monde, ça va très bien.
Pas trop dégoûté de cette cruelle défaite ce week-end?
Un peu quand même, surtout que j'ai quasiment pas pu jouer du match.
Oui, frustration.
C'est comme ça, ça arrive.
C'est donc, on rappelle pour les auditeurs, donc tu joues en U17, c'est
ouais,
ça c'est U17 et... finale régionale perdue à un point, c'est ça?
À trois points
près, c'est vraiment cruel. Donc voilà Faustin, j'espère que tu vas t'en remettre, je pense que oui. La saison est terminée pour toi aussi?
Ouais, on aurait peut-être un tournoi, mais simplement voilà. Amical.
Très bien, ça marche. Cédric est avec nous aussi. Salut Cédric, comment ça va?
Salut tout le monde, bah écoute, ça va super bien.
La forme?
Ouais, la forme. Week-end de repos niveau sportif pour moi.
Ok. Bah tant mieux, hein.
Ça a été bon.
C'est important de prendre du repos des fois.
Bah c'est ça, voilà, fallait profiter du week-end.
Évidemment. Aurélie Bonan donc est avec nous, coach de l'UFAB 49. Bonjour Aurélie.
Bonsoir.
On va aujourd'hui revenir avec toi sur cette saison de l'UFAB 49. Les gars, évidemment, si vous avez des questions, n'hésitez pas à y aller. Et ben, écoutez, on va commencer sans plus tarder. Alors, pour rappel, donc Aurélie Bonan, tu es arrivée l'année dernière, sur les rives angevines. Et puis voilà, tu as remplacé donc David Gauthier, qui était donc prévu en début de saison. La saison de l'UFAB, elle s'est plutôt bien passée avec donc cette 7e place en saison régulière et qui vous a permis d'aller en play-off et de vous qualifier pour l'Eurocoupe. Et puis il y a eu justement l'Eurocoupe aussi cette année avec ce quart de finale perdu face à l'ASVEL. On va revenir dans un premier temps sur la fin de saison. Alors voilà, je perturbe un peu évidemment chronologiquement, mais en tout cas voilà, on va essayer de revenir un peu. On va reprendre, on va dire là où on était par rapport à notre dernière invitée Leïla Lacan. Donc justement là, au moment où on la recevait il y a un peu plus d'un mois maintenant, l'UFAB était plutôt en bonne posture hein, évidemment pour les playoffs grâce à plutôt une bonne série de victoires qui arrivait je crois courant mars. Pourtant c'est une fin de saison qui a été serrée jusqu'au bout. Même jusqu'à la dernière journée pour connaître véritablement votre position au classement. Justement, ça a été donc très tendu tout du long. Raconte-nous un peu comment se sont passées ces dernières semaines de phase régulière dans la gestion mentale et physique des matchs.
J'ai envie de dire, vu le résultat final, plutôt bien. Ça veut dire qu'on a bien géré sur ces deux points-là. Forcément, on sait que c'est serré, on sait qu'on n'a pas de marge sur beaucoup d'équipes du championnat. Je pense qu'il y a un top 4 qui s'est vite dessiné. Et derrière, ça a été très très serré jusqu'à la dernière journée. Donc, comme j'ai dit aux filles, dès la trêve de février, c'est les équipes qui restent le plus soudées, qui vont au bout du projet du club aussi, qui s'investissent à fond, qui arrivent à leurs objectifs, et c'est ce qu'on a réussi à faire.
Cette fin de saison régulière, elle a été aussi marquée par le niveau de jeu incroyable de la meneuse Alexis Peterson, auteur de la plus grande performance de l'histoire du championnat de LFB. À quel point, parce qu'il n'y a pas eu que celle-là, je crois que c'était contre Charleville-Mézières, à quel point ses performances ont été déterminantes sur cette fin de saison?
Elles le sont forcément, parce que Lex est une joueuse hors norme. Effectivement, elle est pour beaucoup dans les résultats du club, dans les résultats de l'équipe. Maintenant, comme je l'ai dit et je le pense, on a eu de la chance de l'avoir à Angers pendant 2 ans. Elle a amené cette équipe, elle a été un leader, mais il faut pas oublier le travail des autres. Faut pas minimiser le travail du club, du staff, sinon on sert à rien, on joue pas au basket 1 contre 5. Donc les joueuses aussi lui ont donné ses responsabilités là aussi. Donc bien sûr que tout le monde est conscient du niveau de cette joueuse, elle est extraordinaire. Et voilà, on lui souhaite que le meilleur pour la suite.
On reviendra un peu plus tard sur Alexis Peterson. Le tout dernier match de la saison régulière, il avait lieu à domicile contre La Roche. Ça a été une grosse bataille jusqu'au bout, qui s'est d'ailleurs terminée en prolongation. Est-ce qu'il y avait de la frustration en plus de perdre ce derby à domicile, en sachant que ça aurait pu avoir de l'incidence sur le futur adversaire des playoffs?
On est des compétitrices, donc on veut toujours gagner. Donc oui, Forcément, même si on savait avant la fin du match qu'on était déjà dans notre objectif de play-off, les joueuses n'ont pas été heureuses parce qu'elles avaient envie de gagner. C'était un derby, il y avait beaucoup d'intensité des deux côtés. Non, on regardait pas forcément qui on allait jouer en play-off, mais plutôt être en play-off, parce qu'on sait toujours à quel point c'est important pour pouvoir capitaliser sur la saison, pour pouvoir enchaîner sur le recrutement, etc. Donc c'était avec du recul, c'était rigolo de voir comment les filles étaient... énervé de la défaite, mais en même temps, une demi-heure après, elles étaient contentes d'être arrivées à leur objectif.
Oui, quand même, ça restait quelque chose de positif. Justement, par rapport à ces playoffs, est-ce que avant de les disputer, il y avait des attentes particulières de ton côté?
Non, mais je pense que c'est toujours le problème, en fait. C'est que quand une équipe sportive, un athlète, il arrive à ses objectifs, c'est toujours difficile de se projeter derrière. Et à partir du moment où on avait assuré le top 8, c'est toujours compliqué, en fait. Il y a forcément un moment où il y a de la décompression et le quart de finale, il arrive vite. On a essayé de récupérer, de profiter aussi de cette qualification. On s'est pas beaucoup entraîné. On avait fait aussi le choix de libérer l'ex. En tout cas, moi, je l'avais fait sportivement. Donc, on est tombé sur une équipe qui aujourd'hui est en finale du championnat de France. Elle y est pas pour rien. Et là, pour la petite anecdote, on perd contre Lyon en quart de finale de l'Eurocup qui gagne l'Eurocup. On perd contre Basketland en quart de finale de Coupe de France qui gagne la Coupe de France. Donc, on verra ce qui se passe sur ce titre de champion de France cette semaine.
Effectivement, ça se trouve, c'est un signe. Justement, tu parlais de l'adversaire qui était vraiment supérieur pour le coup. Mais est-ce que l'écart est un petit peu sévère sur toi? Est-ce que t'espérais que les joueuses aillent chercher un peu plus?
Oui, l'écart est sévère, mais on était entre une équipe qui était, comme on dit, en mode play-off, ouais, et une équipe qui était arrivée à ses objectifs. Donc, de toute façon, il y avait un écart au niveau de ça et on l'a préparé différemment puisqu'on avait relâché un peu aussi physiquement et mentalement. Maintenant, il y a un écart clairement de densité physique sur ces deux équipes. Le roster n'est pas le même. En plus, sans Lex, forcément, c'était déjà plus compliqué. Même avec elle, ça se serait pas passé foncièrement différemment. Donc on était sur deux moments, deux temps différents d'une saison et qui, je pense, ont joué pour beaucoup.
Les gars, est-ce que vous avez des questions sur cette fin de saison?
Ouais, justement, par rapport à ce dernier match à domicile, on était présents justement. Et moi, j'avais trouvé que le premier quart-temps, c'était serré. Il y avait un écart, je crois, de 4 points, enfin c'était serré. Dans le deuxième, l'écart s'est creusé, mais il y avait toujours une envie quand même. Enfin, il y a toujours eu de l'envie que ce soit le cas. Mais est-ce que c'est vraiment à la mi-temps que ça a basculé ou...
Ouais, je pense que bon, déjà dans le deuxième quart-temps, ça avait été compliqué. On shoot beaucoup trop à 3 points sur cette série. Et quand on est à droit, ça va, mais quand on met pas dedans, on n'a pas forcément les deuxièmes tiers. On les laisse courir aussi. Et on sait que cette équipe de Villeneuve, 80% de ses possessions, c'est du jeu rapide et du 1 contre 1. Donc c'est compliqué parce qu'elles ont eu plus de possessions que nous sur ces deux confrontations. Je pense que de l'envie, il y en avait, mais encore une fois, il y a un moment donné où quand on est arrivé à un certain objectif, c'est difficile. C'est difficile aujourd'hui de garder les gens mobilisés. Ça a tellement été du tendu et stressé toute la saison que, bah ouais, il y a un moment donné où l'élastique il tend et il lâche, quoi.
Et puis de la fatigue naturelle. Oui, bah avec la saison, avec l'enchaînement des matchs, des choses comme ça.
On parle d'équipes de Villeneuve-d'Ascq, de Bourges, de Lyon qui ont des rosters à 10 joueuses, des fois à 11. Nous, il y a des joueuses qui ont joué 35 minutes 2 fois par semaine pendant 8 mois, en fait. Mais ça, il faut s'en rendre compte au quotidien, en fait. Quand on vient juste au match, on se dit ah ouais, l'UFAB, elles sont bonnes, elles sont pas bonnes. Ouais, mais il y a tout ce qu'il y a derrière. Il y a le taf, il y a ce qu'elles ont engrangé depuis le mois d'août, quoi.
Et du coup, comment tu juges cette saison pour dresser un peu le bilan de la saison, comment tu la juges?
Bon, elle est clairement réussie.
Ouais.
Quart de finale de Eurocup, quart de finale de Coupe de France, 7e du championnat, même résultat que l'année dernière. Sincèrement, elle est réussie dans ce qu'on a montré surtout. Alors il y a le résultat, mais moi ce que j'ai aimé c'est ce qu'on a été capable de montrer sur le terrain, le langage du corps qu'il faut avoir quand on est sportif de haut niveau, l'identité qu'on a voulu avoir. Je pense qu'on n'avait pas le roster le plus étoffé, loin de là, mais on a été capable d'avoir des vraies valeurs et développer un basket, je pense, très plaisant offensivement, notamment pour les spectateurs.
Et justement par rapport à ça, est-ce que tu as senti une progression de ton groupe tout au long de la saison?
Ouais, le groupe a évolué, mais je pense vraiment qu'il y a deux temps forts, je pense. Il y a le match à La Roche. Ouais. Je pense qu'il a fait vraiment beaucoup de bien dans les têtes, et le match à Basketland où on s'est prouvé qu'on était capable de gagner des équipes mieux classées que nous. Et j'ai senti que, voilà, il y a quelque chose qui s'était passé dans le groupe. On avait vécu une semaine difficile avant à Lyon où on s'était dit beaucoup de choses. Pas forcément que des choses sympas, mais ça fait partie aussi de la vie d'un groupe. Et moi, c'est ce que j'ai aimé cette année. C'est, humainement, c'était vraiment une chouette aventure, et quand on est coach, est-ce que c'est pas ça ce qu'on vient chercher en priorité?
Évidemment. Est-ce que justement, tant coach, t'as réussi, selon toi, à vraiment imprimer ta marque et ton style de jeu à cette équipe?
Je sais pas. Je pense qu'en un an, c'est trop tôt pour en parler. Non, je dirais non, parce que je suis un coach assez défensif, et quand on parle des 2 derniers matchs ou des 3 derniers matchs, on va pas me parler d'un coach défensif. Donc, on en rigole avec mes collègues, mais non, aujourd'hui, c'est pas. On s'est adapté les unes aux autres, en fait. On a pris le temps de s'apprivoiser, de travailler ensemble. Je pense qu'on s'est retrouvé en termes de valeur, ça c'est certain. En termes de basket, non, il y a des joueuses qui étaient loin de mon univers et moi loin du leur, mais c'est aussi la beauté de notre métier, c'est qu'il faut s'adapter aussi aux gens avec qui on travaille, et on travaille pas qu'avec des gens qui nous ressemblent. Donc c'est là où il faut être bon, et les filles ont été super de ce côté-là.
C'est une année un peu de transition au final entre le jeu d'avant et le jeu que tu souhaiterais mettre en place.
C'est des années de transition sans en être, en fait, parce que on est toujours dans ce ventre mou du championnat, parce qu'aujourd'hui, clairement, financièrement, on n'a pas les moyens d'avoir les 5, 6, 7, voire 8 plus gros budgets, mais c'est pas grave, en fait, on fait avec nos armes, donc on essaye de construire les choses avec les gens qui souhaitent rester dans notre projet, avec des gens comme Alexis ou Jody qui ont fait le choix de partir. Donc il faut s'adapter aussi, il y a l'offre et la demande. Quand les gros clubs ils se mettent sur les joueuses et qu'ils proposent le double de ce qu'elles peuvent gagner chez nous, bah à un moment donné, on a beau avoir des armes dans l'identité, on les a pas forcément dans le pécunier, et ça fait partie du métier. Et je pense qu'aujourd'hui, on doit être un club formateur, notamment de jeunes joueuses, ce qui est le cas cette année, et continuer à avoir cette identité là.
Ouais, c'est l'inconvénient de forcément d'être peut-être un club à petit budget. Et je vais revenir sur l'aventure en Eurocoupe qui s'est quand même terminée en quart de finale. Est-ce que ça a été plutôt, on va dire, une bonne surprise pour toi et ton groupe? Est-ce que ça a été quelque chose que vous visiez, les quarts de finale, ou c'était plutôt on voit match par match?
Ça a été quelque chose d'extrêmement positif. Parce que quand on gagne pas le week-end, on n'a pas le temps de cogiter toute la semaine, on réenchaîne le mercredi, on a eu la chance d'enchaîner des victoires en Eurocup. Et du coup, je pense que le groupe, alors pas le staff, hein, mais je pense que le groupe a digéré mieux les défaites du week-end, parce qu'on rebasculait tout de suite sur autre chose, une autre compétition, la vie de groupe, les voyages, la fatigue qui va avec, etc., etc. Mais du coup, ça permettait aussi d'avoir des victoires dans des semaines plus difficile en championnat et je trouve que c'était plus simple à gérer dans les têtes des joueuses. Et clairement, comme on l'a dit et comme le président l'a dit, ça restait leur compétition aux joueuses et elles sont allées au bout de ce qu'elles pouvaient faire.
Ouais. Et par rapport à, par contre, physiquement, est-ce que tu penses que ce parcours, il a quand même puisé dans vos ressources à un certain moment de la saison?
Non, ça c'est des faux problèmes pour moi. Okay. Parce qu'on peut se blesser à l'entraînement, parce que on peut être fatigué de sa semaine d'entraînement. Les joueuses, c'est des compétitrices, tout sportif. Je l'ai été pendant 20 ans. Tout sportif, il veut jouer plus que s'entraîner. Ouais. Le sportif qui dit qu'il préfère s'entraîner, c'est pas un vrai sportif de haut niveau. Elles veulent jouer. Donc, plus il y a de matchs, plus il y a de compétitions, plus les joueuses, elles vibrent, elles ont de l'adrénaline, elles sont heureuses. Donc, il y a de la fatigue, mais elle est différente d'une, deux semaines à un seul match.
Du coup, t'es impatient, j'imagine, de retrouver cette compétition l'année prochaine?
Non. Là tout de suite. Alors l'année prochaine, oui, mais là tout de suite, j'ai besoin. Ouais, là j'ai encore beaucoup de boulot parce qu'il y a la construction de l'équipe suivante, il y a la préparation de la saison, il y a voilà les sollicitations. Mais il y a un moment donné où je vais aussi avoir là
un
les
peu
joueuses.
Vacances.
Ouais, les joueuses elles sont contentes parce que ça y est, elles ont coupé en fait. Mais moi je vais ouais j'ai besoin parce qu'on a tous besoin en fait. On a besoin d'avoir autre chose. Mais je sens que là il faut que les sujets ils se mettent en place et que je puisse aller souffler aussi. Ouais.
Il y a un sujet qui est revenu un peu dans nos dernières interviews de l'UFAB. Là, je vais reparler de la structure de l'effectif. C'est le manque notamment d'une joueuse à l'intérieur, avec notamment les problèmes administratifs de Jovana Pašić en début de saison, la blessure d'Ada Aura et Lonu cet hiver. Il y a certaines joueuses qui disaient en gros que malheureusement parfois ça manquait un peu de ça permettait pas en tout cas de faire de la rotation notamment à ce poste. Est-ce que selon toi c'est quelque chose qui a pénalisé l'équipe dans un certain sens? Est-ce que toi ça t'a dérangé peut-être dans la gestion de ton effectif?
Alors j'aimerais savoir laquelle de mes joueuses t'a dit ça, parce que c'est pas très logique. Le départ de Jovana, il est pour des raisons administratives bien sûr, mais je pense que Leïla, elle a largement pris la mesure et elle a pris le relais, comme a pu le faire Axel en rotation, comme a pu le faire Isis. Ada Aura qui arrivait sur un poste 3-4, c'était toujours pas un poste 5 dominant. Donc
c'est peut-être moi qui me suis trompé du coup pour le coup sur le
non,
poste.
Non non, mais c'est les non mais tu as raison, c'est les deux joueuses voilà, mais c'est pas forcément ce qu'on aurait souhaité pour rééquilibrer l'équipe, mais c'est aussi une question de marché, de timing, ouais. Financier aussi. Donc oui, je pense qu'avec Ada Aura, ça aurait amené je sais pas si ça aurait changé les résultats parce que les résultats ils sont très bons,
oui.
Mais en tout cas un peu d'émulation à l'entraînement, un peu de voilà de compétitivité à l'entraînement qui aurait fait peut-être monter le niveau d'intensité des entraînements, parce que quand il y a moins de joueuses ou quand il y a une hiérarchie très établie, les gens à l'entraînement aussi sont un peu doucement aujourd'hui, tranquille demain, il y a match. Et quand il y a plus de monde, quand il y a de la concurrence, ça fait monter le niveau aussi et ça fait monter les gens en compétence. Donc ouais, ça m'a manqué un petit peu, même si franchement les jeunes elles ont été extraordinaires dans leur investissement tout au long de l'année. Mais voilà, et les joueuses ça reste des joueuses et voilà. De temps en temps, elles aiment bien se relâcher un peu.
Faustin, est-ce que tu as une question pour Aurélie Bonin?
Ouais, moi, c'est ce qui m'a frappé quand on a reçu les joueuses ici, c'est qu'elles nous ont toutes décrit ton coaching comme quoi tu voulais faire devenir des bulldogs sur le terrain, vraiment des joueuses, qui veulent tout donner sur le terrain. Et je me demandais par quoi ça passe, comment tu leur as fait donner cette mentalité?
Ça t'a frappé?
Ouais, vraiment.
Ah. Écoute, moi je pense que ça vient de plusieurs choses. Déjà de mon éducation, déjà d'où je viens, parce que je viens du Sud-Ouest et on a des vraies valeurs dans la vie, dans le sport. Ça vient de ma carrière, parce que j'ai fait 20 ans de pro, ça vient des gens avec qui j'étais entouré. Je reste convaincu aujourd'hui que le sport de haut niveau, ça doit véhiculer des valeurs. Les gens, ils viennent certes pour un résultat, mais ils viennent pour voir des gens, on appelle ça un body language en anglais, mais qui ont un vrai langage du corps. Moi, si je vais voir du sport demain, j'adore aller voir du sport. Je vais voir des gens qui s'arrachent, en fait. Parce que les gens, ils viennent pour ça, en fait. Ils viennent pour des gens qui ont une identité de club, de département, de ville, de région. Et c'est important, en fait. C'est important que, même quand on perd, mine de rien, les gens, ils disent, ah ouais, elles ont perdu, elles ont pas été bonnes. Mais quand même, elles ont donné le meilleur d'elles-mêmes. Et juste ça, je trouve qu'aujourd'hui, dans notre métier, c'est une victoire. Et j'ai envie de dire, ça devrait être le leitmotiv de tous les sportifs de haut niveau. En tout cas, moi, c'est ce qui m'anime. Aujourd'hui, le talent, oui, mais le mental, ce qu'on met sur le terrain, c'est 50, 60, 70% du boulot.
Et puis ça aide à rebondir plus facilement quand on est préparé mentalement.
Ouais,
plus que physiquement.
Ouais. Je vais vous raconter une petite anecdote. Après le match de, je crois que c'est après le match de Bourges. Bourges, on fait un très bon match, mais on perd, je sais plus, peut-être 13 points, un truc comme ça. Et genre, je vois les gens, tout le monde est content. On rentre rentre au vestiaire et là je vois les filles qui rigolent. Je rentre dans le vestiaire, je dis, c'est quoi qui vous fait marrer là? Vous plaisantez ou quoi? Je dis, vous vous contentez aujourd'hui de perdre de 12 points, je sais plus combien on avait perdu, parce qu'on a fait un bon match? Mais je dis, on s'en fout en fait, on a perdu. Et c'est changer la mentalité en fait des sportifs français. Ce n'est pas normal de perdre en fait. Même quand tu joues contre les meilleurs, même si demain je joue contre les meilleurs, et genre, non, on retravaille, on avance tout le temps, on se relève. En fait, c'est ok, ça a pas fonctionné. Qu'est-ce qu'on fait pour que derrière ça fonctionne en fait? Se trouver des excuses, on peut tous le faire dans notre vie, dans notre métier. Donc là, voilà, on fait un constat, ça va pas. Qu'est-ce qu'on fait? Donc ouais, on est déjà, si on fait le taf en défense, on va moins s'occuper de savoir est-ce qu'on n'est pas à droit, est-ce qu'on n'a pas fait la poste au bon endroit, etc., etc. Limiter l'adversaire en fait déjà dans ce qu'il est bon. Ouais, pour moi, le langage du corps sur un terrain pour un sportif de haut niveau, c'est la base pour les gamins, pour tous les gens qui viennent voir du sport.
C'est clair. Sinon, tu parlais de valeurs, mais aussi voilà d'émotions, de peut-être de matchs importants un peu plus tôt dans l'interview. Est-ce qu'il y a un match en particulier ou peut-être plusieurs qui t'ont donné vraiment beaucoup d'émotions, hein, peut-être un match référence, un match serré ou un match où t'as été fier particulièrement de tes joueuses?
Alors je suis toujours très fier de mes joueuses.
Oui.
Ça c'est même quand je suis pas content, je suis fier parce que j'ai de la chance de faire le métier que je fais et de coacher des joueuses. Non, mais il y a beaucoup de matchs, mais clairement le match à Basketland, ça a été, elles ont fait un match les filles. Sincèrement, je pense que je pouvais être sur le côté à part leur dire allez restez tranquille machin. Elles ont pris le truc, même au temps mort, ça communiquait, c'était ensemble. Elles savaient où elles voulaient aller. Elles ont entendu où il fallait appuyer, etc. Bon ben quand ça se passe comme ça, j'ai un métier quand même beaucoup plus simple. Donc ouais, je pense que cette année vraiment le match à Basketland, ça restera le match de la saison, je pense.
Et surtout dans une grosse ambiance, hein, c'était.
Ah ben je suis rentré à la maison, hein.
C'était complètement dingue.
Les Landais, il y a que ça de vrai, hein.
De toute façon. Oui. Bah Max, notre ancien animateur, c'est de quoi il parle puisqu'il était justement au match.
Et voilà.
On va parler un peu de tes joueurs parce qu'on a déjà un peu parlé de l'effectif parce qu'il y a des cas intéressants. Justement, bah on parlait un peu de Alexis Peterson. On a donc appris qu'elle partait. Est-ce que tu travailles, alors sans nous en dire trop évidemment, mais est-ce que tu travailles pour la remplacer ou est-ce qu'une joueuse comme par exemple Leïla Lacan peut être amenée à prendre plus de responsabilités la saison prochaine?
Non, mais je l'ai déjà annoncé en fait. Leïla sera la meneuse titulaire l'année prochaine pour plein de raisons. Pour beaucoup de discussions avec elle, pour une construction d'équipe, pour son avenir à elle, pour continuer à la faire grandir. Elle a largement les capacités aujourd'hui. Est-ce qu'elle est prête? Non, mais elle va l'être en fait parce qu'elle a pas le choix et qu'à un moment donné, il faut mettre les gens sur le terrain pour qu'ils soient prêts. Donc il faut pas attendre en fait. Donc je pense qu'elle a largement prouvé contre Villeneuve qu'elle était capable de le faire et dans un style différent puisque chaque joueuse est différente. Mais Leïla va avancer sur ce poste-là. On essaiera de la balancer, voilà, sur ce poste 1-2. Mais elle peut aussi jouer 3, donc c'est très bien.
Tu vas être exigeante par rapport à elle?
Ouais, mais je suis d'une exigence quotidienne. Je suis très exigeante avec moi-même et très exigeante avec les gens qui m'entourent. Donc Leïla, oui, elle le sait. Je la lâche pas. On en parle beaucoup. Je l'ai déjà eu tout à l'heure. Je lui dis comment s'est passé ton entraînement. Je veux un retour de ton entraînement parce qu'elle est en équipe de France.
Oui.
Jamais je la lâche. Mais je la lâcherai pas. Même après, le jour où on travaillera plus ensemble, je la lâcherai pas parce que. Sincèrement, c'est une gamine super et elle a vraiment envie d'avancer. Elle a un talent extraordinaire. Elle a tout pour réussir et elle a surtout la mentalité qu'il faut. Et preuve en est, aujourd'hui, elle a décidé de rester à l'UFAB alors qu'elle était courtisée par les plus gros. Dès décembre, elle a annoncé qu'elle voulait rester au club. Voilà, donc ça, c'est pour moi, c'est des vrais signes de quelqu'un qui a ce qu'il faut pour réussir au niveau parce qu'elle sait où elle veut aller et elle sait, voilà, elle veut franchir les marches les unes après les autres.
Et tu disais que t'étais fier de tes joueuses et j'imagine que quand t'as appris qu'elle était dans le groupe France, ça a dû te faire quelque chose aussi.
Oui, bah je lui ai dit sois meilleur que moi parce que moi j'y suis allé moins longtemps que toi. Donc non, blague à part, mais bien sûr que je suis très heureuse pour elle. C'est mérité. Aujourd'hui, il y a du monde en équipe de France. Il y a des joueuses très fortes à ses postes de jeu. Elle est encore très jeune. Elle va apprendre. Comme je lui ai dit, quoi qu'il se passe, ce sera pas un échec. T'y retournera. Elle aura sa carrière internationale. Il faut aussi être patient. Maintenant, si elle peut pousser les portes tout de suite et montrer qu'elle est là, bah, tant mieux. On prend et. Et tant mieux pour elle, mais elle a aussi une compétition, un championnat du monde de cet été U19 dans sa catégorie, ça lui tient à cœur, c'est important. Donc voilà, step by step, je pense que c'est quelqu'un qui veut prendre le temps, qui sait où elle veut aller, mais elle est pas non plus débordante d'ambition à l'instant T. Je pense que c'est ce qui fait aussi sa force et qu'elle avance.
Ouais, c'est vrai qu'on l'avait rencontrée, elle est assez les pieds sur terre, quoi.
Ouais, elle est mature pour son âge. Tient,
voilà,
ouais.
Mais...
Ah oui, carrément, oui.
Alors, c'est... pas surtout, hein. Mais sur ça, je sais qu'elle va pas m'écouter.
Non, mais en tout cas, niveau basket, oui, ça, on sentait pas forcément le... Je veux ça absolument tout de suite, maintenant. C'était,
oui,
voilà.
Pas la Mbappé, quoi.
Oui, entre autres.
C'est pas, ouais, c'est ça. Lei, elle a besoin de prendre du plaisir, en fait.
C'est donc, ça, ça.
Elle a besoin d'être entourée, de prendre du plaisir dans, au quotidien, dans sa vie de groupe, dans sa vie en dehors. C'est quelqu'un qui a besoin, voilà, de joie de vivre, qui est très solaire. Et voilà, elle a besoin de se sentir bien dans un bon environnement pour être performante. C'est une qualité comme ça pourrait être un jour un défaut si elle est pas dans le bon environnement, mais pour l'instant elle l'est, donc tant mieux pour nous et tant mieux pour elle.
Et surtout qu'elle est très jeune, donc forcément c'est hyper important.
À peine 18 ans, quoi. C'est assez hallucinant ce qu'elle est capable de faire déjà.
Du coup, par rapport à Alexis Peterson, elle, par contre, n'a pas été, elle a eu une mauvaise nouvelle il y a pas longtemps, elle n'a pas été retenue dans l'équipe de Los Angeles. Est-ce que t'es
Las Vegas?
Las Vegas, pardon, je me suis trompé.
Je vois bien que tu me testes pour savoir si je suis.
Est-ce que du coup, bah, j'imagine que t'es un peu déçu pour cette joueuse?
Oui, oui, forcément. Après, la WNBA, c'est ce qui se fait de mieux aujourd'hui dans le monde. Il y a du monde à son poste de jeu dans cette franchise, hein, parce qu'il y a des Chelsea Gray, il y a des Kelsey Plum, etc. Mais je pensais sincèrement pas qu'elle se ferait couper aussitôt.
Okay.
Je pensais qu'elle irait un peu plus loin. J'ai suivi son match l'autre jour, là, les stats en direct. Elle a eu du temps de jeu. Elle a pas forcément été très performante. En tout cas, pas ce qu'elle fait chez nous, mais il y a de l'adaptation. Et c'est pareil. Moi, ce que j'ai dit à Alexis quand elle est partie, je dis aujourd'hui, il va falloir que tu sois performante avec des joueuses, entre guillemets, qui veulent toutes le ballon, qui sont bien plus fortes, qui peuvent toutes faire comme toi. C'est le plus dur pour une joueuse, c'est de s'adapter aussi à ce que l'équipe a besoin. Donc après, j'y suis pas, donc je sais pas, mais. Ouais, j'ai trouvé que c'était un peu tôt par rapport au moment où elle les a rejoints, quoi. Mais bon, après, je maîtrise pas leur roster et ce qu'ils en font.
Pour continuer sur l'effectif, donc il y a plusieurs joueuses qui sont sur le départ. Donc Jody Corneli, Alexis Peterson, Ivana Yakubkova. Aujourd'hui, le club a annoncé Eva Pico, si c'est bien ça.
Mm-hmm.
Pour l'instant, l'effectif, il est pas trop bousculé, il est un petit peu forcément quand même, parce que c'est quand même du basket. Est-ce que c'est un aspect quand même positif pour toi pour travailler dans la continuité?
Bah, ça l'est forcément, surtout que cette année, on a globalement réussi, donc on n'a pas forcément envie de tout changer. Maintenant, comme je l'ai dit et je le répète, Jody m'a annoncé très tôt qu'elle souhaitait partir parce qu'elle souhaitait partir avoir une expérience à l'étranger. Voilà, elle arrive à la trentaine, elle avait envie d'autre chose. Bon voilà, Alexis, clairement aujourd'hui, elle a envie d'un projet où, et sportivement et financièrement, ce sera autre chose. Donc voilà, c'est comme ça. Il va, c'est très bien que voilà cette année ça a pas été simple et on en a beaucoup discuté et on a de très très bonnes relations et voilà, il va m'a dit qu'elle allait pas rester. Moi je lui dis que je la conserverai pas non plus. Donc il y a même pas eu en fait cette discussion, ça s'est fait naturellement. Eva, on en a parlé très tôt, c'est une jeune joueuse, elle a besoin de jouer. Aujourd'hui, je peux pas lui promettre du temps de jeu. Donc elle a besoin d'aller au niveau inférieur pour se faire les dents et pour avancer tout simplement. Donc oui, je suis contente de garder une partie de l'effectif, on aimerait toujours en garder au max, mais il faut comprendre en fait que c'est pas dépendant que du club en fait. Et là déjà sur les quatre joueuses que je vous ai citées, bah il y en a trois qui ont décidé de partir pour des raisons que on peut pas aujourd'hui nous contrôler. Donc voilà, donc il faut comprendre aussi que dans notre métier, il y a les projets des autres, il y a les aspects financiers, il y a les envies d'étrangers, il y a les envies de plein de choses en fait.
Et ce que tu disais là, tu travailles déjà pour le mercato.
Alors nous, le problème dans le basket, c'est que ce que tu appelles le mercato, c'est ça, c'est la perte de transfert. Malheureusement, vraiment, elle est déjà commencée depuis le mois de janvier. C'est un enfer.
Ah oui.
C'est un enfer. Moi, je comprends pas. Il faudrait qu'on arrive à faire quelque chose comme dans le basket masculin où on peut pas recruter avant une certaine date. Ou dans, il me semble que dans le foot, il y a des périodes aussi.
Des périodes précises.
Voilà. Mais nous, c'est clairement un enfer en fait. C'est-à-dire qu'à partir de janvier, les agents t'appellent. Ta joueuse, elle a déjà reçu une offre dans l'autre club à 3 € de plus, machin. Enfin, on peut pas bosser en fait.
Ouais.
Et du coup, on est obligé de rentrer dans cette espèce de système. Alors que moi aujourd'hui, j'ai même pas fini mon recrutement. J'ai pris le temps de voir d'abord mes joueuses. Avant d'aller chercher à l'extérieur, qu'est-ce qu'on fait? Les filles, qu'est-ce qu'on fait? On était à peine, même pas, on n'avait même pas fini la première phase régulière. Ah et oui. C'est un réel problème aujourd'hui dans le basket féminin, clairement. Mais c'est les agents, comme c'est les clubs qui déclenchent, hein, les clubs du haut, ils déclenchent. Moi, quand il y a des clubs du haut qui appellent Leïla le 26 décembre, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Derrière, on fait comment? La gamine, elle a 3 mois de ligue féminine, on lui promet déjà des... Bon, c'est compliqué, quoi. Mais ça fait partie du métier. Donc, je m'adapte comme les autres. Mais nous, on fonctionne pas comme ça. On prend le temps. On a pris le temps de voir les joueuses, de re-signer les joueuses qu'on souhaitait conserver. il y a toujours des dossiers en attente et on essaie d'avancer tranquillement. De toute façon, on sait très bien qu'on n'est jamais le premier choix des clubs, en fait, des joueuses, pardon. Ouais. On sait qu'on va passer derrière les quatre, derrière globalement les huit, à part si c'est des joueuses que je connais et qui ont envie de bosser avec moi, ou etc. Et c'est pareil, c'est comme je pense dans le foot, le salaire qui peut être proposé en janvier, bah peut-être qu'en juin, il est divisé par deux parce que la joueuse, elle a pas encore de boulot. Donc, c'est le nerf de la guerre aussi. Et voilà, c'est, mais c'est pas simple.
Ouais, du coup, c'est un truc qui vous suit toute la saison, en fait.
Ouais, ouais, mais il faut garder les gens, il faut garder les gens actifs à notre projet, en fait, puisqu'aujourd'hui, comme je l'explique, vous êtes salarié de l'UFAB, je suis salarié de l'UFAB, aujourd'hui, on est là pour l'UFAB. Nos projets individuels, ils sont au service de l'UFAB. Quand la saison, elle est terminée, ok, bien sûr, vous avez des sollicitations annexes, mais de priorité UFAB. Et ça s'est sincèrement très, très bien passé cette année de ce point de vue-là, les filles ont été vraiment extra.
Et oui, justement, par rapport à ça, au niveau européen, ça se passe de la même façon ou
c'est vraiment... avec les étrangères?
Non, avec la période de transfert.
Au niveau européen, j'ai pas compris.
Parce que là, c'est en France, voilà, dès janvier, ça tope qu'à la porte.
Ah, dans d'autres pays?
Et dans les autres pays,
c'est... Ça dépend. Je trouve qu'on est, vraiment... Souvent, les agents me disent, en France, vous déclenchez vachement tôt, quoi. Alors, je dis, moi, je déclenche rien, mais oui, on déclenche tôt. Ouais, en France, ça déclenche tôt. Mais du coup, comme ils appellent, enfin, on appelle, parce que je vais mettre dedans, mais des joueuses ou des agents sur des joueuses qui sont dans d'autres pays, effectivement, ça déclenche aussi des choses dans d'autres pays. Mais ouais, globalement, je trouve que c'est paradoxal parce qu'on est le championnat qui finit le plus tard. Mais on est le pays où, globalement, le recrutement démarre le plus tôt. Donc, c'est pas simple, quoi.
Ouais, donc, ça serait quand même compliqué de faire quelque chose de global pour,
Ouais, mais au moins, si déjà en France, on se disait qu'avant, j'en sais rien, moi, la deuxième partie de la deuxième phase, oui, personne ne peut recruter, on pourrait travailler plus sereinement, en fait. On est en train de gérer les agents, les joueuses, et encore, je vous dis, moi, j'ai eu beaucoup de chance cette année, les filles ont vraiment été super, mais je l'ai déjà vécu à Nantes, j'avais une joueuse, le 15 décembre, elle avait déjà signé ailleurs. Qui voulait lui demander quoi, la joueuse derrière, jusqu'à la mois de juin, en fait, elle vous regarde avec ses yeux, oui, je vais faire mon taf, mais voilà, c'est vraiment un vrai problème aujourd'hui. Pour moi, dans notre métier, mais on en parle souvent avec les collègues, mais le problème, c'est comme c'est des collègues qui déclenchent ça aussi, on n'est pas tous à l'unisson sur ce sujet, quoi.
Ouais. Faustin, t'avais encore une question ou pas?
Ouais, je pouvais me demander, par exemple, est-ce qu'il y a une joueuse en particulier dans l'équipe à qui tu as 100% confiance, qui tu donnerais la parole dans le vestiaire ou ce genre de choses?
Alors, normalement, si je suis coach, je te dis que j'ai 100% confiance en toutes mes joueuses.
J'imagine.
en termes de parole, forcément Kekeli, qui est la capitaine. Ouais. C'est ce qu'on appelle, excusez-moi l'expression, une meuf de vestiaire. C'est-à-dire que je sais que quoi qu'il se passe, elle fait remonter ce qui a besoin d'être remonté. Elle est solidaire aussi du discours du coach. Si on n'est pas d'accord, on en discute. Mais clairement, Keke, Jasmine, même si elle est pas très vocale, c'est quelqu'un qui est un vrai leader de par ce qu'elle dégage sur un terrain et qui elle est. Mais, globalement, cette année, j'avais vraiment des joueuses qui avaient le mérite et le droit de s'exprimer. Je pense que ça s'est fait naturellement entre elles. Parce qu'à partir du moment, comme je te le disais tout à l'heure, où tu donnes ce qu'il faut sur le terrain, tu gagnes de la légitimité dans le groupe et vis-à-vis du staff, en fait. Donc, t'as le droit à la parole, tout simplement, que t'aies 18 ou 30 ans.
Ok. Eh ben, écoute, merci beaucoup.
Merci à vous,
Aurélie, d'avoir été avec nous dans Gérard Sport. C'était très intéressant.
Si, parce que t'en as pas parlé. C'est vrai que c'est pas souvent mis en avant. Un petit mot quand même pour ton staff aussi qui t'a entouré toute cette saison.
Un petit mot pour eux, je pense qu'ils vont être contents de partir en vacances. non, forcément, enfin je le dis souvent, mais t'as raison, on en a pas parlé, bien sûr. Enfin, que ce soit le staff médical, que ce soit Max, que ce soit mon prépa physique. Mais c'est pareil, j'ai mes collègues salariés du club, le boulot qu'ils font pour préparer les matchs, encore là la soirée de fin de saison, et puis bon, les dirigeants bénévoles, parce que leur plaisir, ils le trouvent dans les matchs, mais... Je vais dire un gros mot, j'ai le droit ou pas?
Oui.
La dimension pour des bénévoles, malheureusement, pour les bénévoles du club, la dimension plaisir parfois par rapport à la dimension emmerde. Donc bravo aussi à eux. Et je sais que là, au moins, ils peuvent savourer sur la fin de saison. Ils vont pouvoir tous relâcher un peu jusqu'à se remettre dans le stress pour la suite.
Ça marche. En tout cas, voilà, encore une fois, merci beaucoup d'avoir été avec nous. C'était un plaisir de t'avoir dans l'émission. On va passer maintenant à une petite pause musicale et on se retrouvera juste après. On va s'écouter Tiakola et son titre Melo et on se retrouve juste après.
Este para Xavi.
Malgré les cernes, malgré les sommes, je dois faire les sommes, remplir des salles, refaire du sale, refaire du son. Sur les bleus, ça verse l'essence. Ça a même pas commencé. Ça avait tiré sur mon sort. Je me suis même pas prononcé. Je sais très bien comment c'est. Si tu savais, si tu savais. Trop de fois où j'ai donné. Trop de fois où j'ai donné.
vois plus le soleil, toute l'année c'est l'hiver. Je suis passé de 2 à 15, je suis passé de 2 à 15. Pas les couilles de leur histoire, je suis venu marquer la mienne. Laisse les faire les poupies, on s'est acquis sur le papier. Y'a que l'oseille pour nous soigner. C'est vrai qu'il y avait toi, mais si jamais je me fais coffrer, qui va payer mon toit, wesh? Y'a que ça pour me soigner, que ça pour me soigner, que ça pour me soigner, que ça pour me soigner. J'ai remis la tenue pour zoner, j'ai remis les gants pour missionner. Évidemment, je suis sonné, j'ai remis les pour missionner. Ça commence par comment ça? Quand tu vois les choses qu'on peut pas consommer, ça finit en massacre. Et le bruit du pétard pour se consoler. Toujours des comment ça? Quand tu vois des choses qu'on peut pas consommer, ça finit en massacre. Et le bruit du pétard pour se consoler. Toujours des comment ça? On m'a mis en l'air. Malgré les cernes, malgré les sommes, je dois faire les sommes, remplir des salles, refaire du sel, refaire du son. Sur les bleus, ça verse l'essence. Ça a même pas commencé. Ça veut tirer sur mon sort. Je suis même pas prononcé. Je sais très bien comment c'est.
Tiakola et son titre Mélo dans Génération Sport. On est toujours avec Cédric et Faustin pour la suite de notre émission. Voilà, c'était une interview hyper intéressante avec Aurélie Boulin qui nous a fait le plaisir de venir dans Génération Sport. Cédric, justement pour rester un peu sur l'UFAB, toi tu avais été donc la semaine dernière à la réunion partenaire. Donc
on peut même dire soirée. Hein.
Soirée partenaire avec.
C'est pas un secret, hein, c'est une soirée vraiment de fin de saison, voilà, avec tous les différents partenaires du club. Qu'ils soient sur le maillot ou qu'ils soient enfin
voilà
dans l'encadrement, des choses comme ça. Il y avait aussi les bénévoles, il y avait donc une partie des joueuses aussi qui étaient là.
Ouais.
Et voilà, donc c'est une soirée traditionnelle, hein, bien sûr. Discours de remerciement du président pour les partenaires, pour les joueuses. Voilà, on avait eu des petites infos aussi de départ déjà à ce moment-là, ouais, qui avait été annoncé officiellement. Il y a un autre départ qu'on n'a pas parlé, mais on sait que l'adjoint va... Oui. Va quitter du coup le club.
Ouais, je voulais en parler, mais on a été un peu short en temps.
Du coup,
je crois qu'il va rejoindre, je crois, David Gauthier.
C'est ça, voilà.
Ouais, c'est ça.
Maxime Sebron, voilà.
Maxime Sebron.
Voilà, qui, bah, après des années de bons et loyaux services, voilà.
Oui, un fidèle du club. Hein.
Fidèle du club, voilà, comme ça a été expliqué pendant cette soirée-là. Il part, voilà, parce que c'est un projet pour lui d'évolution. Et comme ça a été dit, elle ne voulait pas non plus l'empêcher. Pour elle, c'était logique. Et ils ont passé, voilà, une bonne saison à travailler ensemble, justement. C'était peut-être bien aussi pour la transition.
Ouais.
Donc voilà, après.
Est-ce qu'il y a eu un autre adjoint qui a été annoncé ou pas encore?
Non, pour l'instant, il n'y avait rien eu, en tout cas ce soir-là. Okay. J'ai rien vu dans la presse pour l'instant. Ouais. J'ai rien vu sur les réseaux sociaux.
On aurait pu lui poser la question, mais. Non, mais en tout cas. Je pense que c'est pas encore.
Ça doit être dans les.
Ouais,
pas forcément dans les choses les plus urgentes, mais je pense que. Quelque part, c'est déjà trouvé.
Ouais.
Souvent, on aime bien s'entourer de gens avec qui on a déjà travaillé par le passé ou
oui,
avec les contacts, ne serait-ce qu'avec la Hollande, des choses comme ça.
Oui.
Voilà.
Oui, c'est clair.
Mais voilà, donc, sur cette soirée-là, c'est vraiment, oui, la soirée de fin de saison. Donc,
qui s'est bien passé.
On va juste, voilà, encore remercier le club pour la confiance qu'ils ont eue.
Merci pour cette saison.
Pour toutes les différentes interviews, voilà.
On a reçu des internationales.
Oui.
C'était assez dingue. Donc, merci à Alpha pour cette saison. Sans transition, on va rester sur le sport local quand même. On va parler un petit peu des différents résultats. D'abord, on va parler football. Faustin nous fera un point sur le basket avec l'EAB et Cholet qui vont bientôt attaquer les playoffs. Sinon, je vous parlerai aussi un petit peu des loups d'Angers, du scandale et puis en international. Encore une fois, Faustin a beaucoup de choses à dire sur le basket. Avec ce soir un sacré truc qui va arriver, l'aboutissement, j'ai envie de dire, de tout un feuilleton de cette saison qui nous aura suivi tous les mardis soirs et puis voilà, pas mal de choses. Et puis avec Cédric, peut-être qu'on parlera un peu de judo avec ces championnats du monde qui avaient lieu à Doha. Donc, on va vous parler de sport local. La fin de saison du SCO d'Angers est toujours autant en roue libre, surtout face à des gros adversaires que les Angevins rencontrent. Alors, ce dimanche, le défi était de taille, forcément, au Vélodrome contre l'Olympique de Marseille. Pourtant, ce sont les Angevins qui ont ouvert le score sur la pelouse phocéenne par l'intermédiaire d'Abdallah Sima. Dans la foulée, c'est Alexis Sanchez qui égalise avant que Dimitri Payet ne donne l'avantage définitif à l'OM. Enfin, Jordan Veretout aggrave le score faisant encaisser à Paul Bernardoni ce qui pourrait être son dernier but sous les couleurs du SCO. Le SCO qui reste planté à la dernière place avec 14 points. À noter aussi, pour être complet, sur la page du SCO, que les dernières rumeurs annoncent notamment des contacts entre les dirigeants scoïstes et l'expert de la Ligue 2, Jean-Marc Fulan, qui en est à 4 montées à son actif. Donc ça pourrait être intéressant pour revoir peut-être un jour Angers en Ligue 1. Côté football féminin, un club angevin se porte beaucoup mieux et c'est celui de la Croix-Blanche. Les joueuses de Valentin Rey ont célébré les 50 ans du club en obtenant leur montée en 3e division nationale. Les Angevines ont garanti cette montée ce week-end contre Changé en s'imposant 5-0. De son côté, le SO Cholet est parvenu à se maintenir en national grâce à son succès 2-1 sur la pelouse du Red Star vendredi dernier. On passe au basket maintenant, Faustin. On va commencer par l'EAB, pourquoi pas.
Ouais, l'EAB qui ont donc terminé leur saison régulière sur une défaite. C'était 82-72 face au premier du championnat Saint-Quentin qui évolueront donc eux en Pro A la saison prochaine. Pour les Angevins, ils finissent eux 11e, mais grâce à leur victoire en Leaders Cup, ils affronteront les deuxièmes du championnat, c'est Chalon-sur-Saône. Dès vendredi, ce sera là-bas, puis ils les recevront lundi prochain. Et en cas d'égalité au cours de ces deux matchs, le match décisif aura lieu là-bas.
Et au niveau de Cholet aussi.
Ouais, Cholet qui ont commencé sur une défaite, on vous avait quitté en plein milieu du match la semaine dernière. Donc c'était sur le score de 4, donc ils ont perdu sur le score de 85-67. Pardon. C'était contre Le Portel. C'était leur 4e défaite d'affilée en championnat, ce qui les faisait descendre fortement dans le classement. Ils devaient se rattraper à tout prix à domicile contre les Mets pour assurer leur place en play-off. Et dans une mairie pleine à craquer, avec une superbe ambiance, les hommes de Laurent Villain ont dominé tout le match et se sont fait un petit peu peur quand même, vachement peur même sur la fin du match, en s'imposant de un petit point, 69-68, s'assurant ainsi leur place en play-off, avec, je dirais, comme MVP du match, Boris Diallo, qui a mis 27 points et capté 9 rebonds leur dernier match et en cours contre
Pau. Ouais. Et t'étais au match ?
J'étais tout à fait au match.
Exactement. Comment ça s'est passé ?
C'est vrai que...
T'as vu Wembanyama ?
J'ai vu Wembanyama. J'étais au moins à 2 mètres de lui.
Ah oui,
c'est rapproché
vrai.
À la mi-temps.
C'était, incroyable.
Voilà, c'était stylé. Au moins 2 mètres 10, je crois, il fait.
Ouais.
Non, je rigole. Il fait bien 2 mètres 20.
Ouais, c'est ça, 2 mètres 20 aussi.
Ouais, 2 mètres 20, c'est impressionnant, quand même. Avec ses grands bras, ses grands trucs. Oh là.
C'est une montagne.
Mais sinon, ouais, le match, comme je disais, ils ont dominé une grande partie du match. Voilà, le premier quart-temps, la première mi-temps, c'était facile. C'était facile. Enfin, tout est relatif. Et vraiment, sur la fin du match, où ils se sont fait rattraper fortement, ils ont loupé des lancers qu'ils mettent d'habitude. Mais finalement, ils gagnent sur un alley-oop à la fin du match où ils décrochent des lancers francs. Et du coup, ils gagnent de 1 point en mettant leur lancer franc. Et Victor Wembanyama a bien failli climatiser toute la salle avec un shoot de sa raquette qui finit vraiment, qui fait
limite
un in and out dans le panier. Quoi.
Et chaud. Et du coup, voilà, ça s'est bien passé.
Ouais,
et t'as pu
sympa.
Voir le grand Victor.
Voilà, c'est ça. Et puis en plus, l'ambiance était super. Il y a eu
les
supporters qui sont rentrés sur le terrain à la fin du match pour fêter, comme il se doit, la qualification en play-off.
Très bien. On va passer maintenant aux autres infos locales avec, pour commencer, le tennis de table. Vous connaissez évidemment le club des Loups d'Angers, qui est double champion de France en titre, et qui avait fait une razzia lors des Générations d'Or 2022. Les Loups d'Angers, qui d'ailleurs sont toujours en lice pour se succéder à eux-mêmes, ils vont entamer les playoffs dans 2 semaines à Rouen, donc ce sera le 30 mai, et ils vont les recevoir pour le le match retour 3 jours plus tard. Ce sera à la salle de l'Europe à Angers, du côté de Montplaisir. Et donc, après le hockey, on a un nouveau duel Angers-Rouen. Cette fois-ci, du côté du tennis de table. Et puis enfin le Sco Handball, voilà, pour parler d'une équipe aussi qui va très bien, le Sco Handball qui est toujours invaincu à domicile et qui a encore une fois gagné ce week-end. C'était face à Martigues, une victoire 32-31 qui évidemment n'a pas vraiment d'importance puisque les Angevins sont assurés d'être premiers au classement à l'issue de cette saison. Par contre, il y a eu une autre info qui est tombée aujourd'hui, qui est plutôt intéressante, c'est que la Fédération française de handball a confié l'organisation de la finale du championnat de France de N1 à Angers justement. Et donc voilà, après cette saison incroyable, ils vont, enfin les supporters angevins vont pouvoir retrouver leur équipe une dernière fois sur le terrain du Hara, on le rappelle, pour voilà, potentiellement obtenir un titre de champion de France de N1. Ce sera le 3 juin 2023, donc à 20h30. Donc pour ceux qui veulent aller voir ce match, n'hésitez pas pour voir peut-être les Angevins être récompensés de leur excellente saison. On va passer maintenant au volet international avec...
Dis-moi.
Ah oui,
on a oublié une chose
quand
même en local.
J'allais oublier mes invités de la semaine dernière.
Oui.
Cédric, tu vas nous faire un point sur le week-end.
Sur le week-end, oui, puisque samedi,
un week-end,
c'était la...
à l'accent irlandais.
C'est ça, c'était le samedi football gaélique. Eh ben, pour le club, ça s'est plutôt bien passé pour les masculins. Ils sortent premiers de leur poule. Et dans leur dernier match, ils vont le remporter, mais avec un scénario fou, puisque... il marque dans les dernières minutes un but à 3 points.
Ouais.
Ce qui fait qu'il y a 6-6. Donc prolongation, et aux prolongations, il gagne 9-6.
Incroyable.
Donc encore une victoire du coup à l'actif de cette équipe. Ce qui fait que le 17 juin, il y a le tournoi donc à Nantes là.
Ouais.
Pour le championnat de France, ça va les mettre dans des bons rails pour aller chercher quelque chose.
Évidemment.
Comme voilà, ça sentait déjà qu'il y avait une grosse ambition quand même.
Oui.
Quand on les a interviewés.
C'est un bon club, oui. C'est...
Et au niveau des filles, ça a été un peu plus compliqué.
On rappelle les filles qui sont en alliance avec
voilà,
New York.
Avec New York, donc les Draganges. Donc ce qu'on peut en retenir, c'est qu'il y a eu de l'envie, de la détermination sur le terrain. Ça a un petit peu pêché dans la finition. Elles finissent 7e donc de cette deuxième manche. Au niveau du championnat de France, elles sont 6e au classement général.
Ok.
Et donc l'objectif, c'est la dernière manche le 17 juin du coup, toujours à Nantes, okay, pour être dans le top 5.
Eh bien, merci Cédric pour
donc, un bon week-end quand même, oui, dans l'ensemble pour.
Et puis surtout, j'imagine l'organisation s'est bien passée.
Voilà, oui,
tout
oui,
ça.
Apparemment, il n'y a pas eu de couac.
Ouais, bien sûr. Donc voilà pour ce petit point football gaélique. On va donc passer maintenant au volet national et international, avec commencer par évidemment le football. Le week-end de Ligue 1 avec pas forcément beaucoup de grands changements sur les classements. Lens a réussi à garder sa deuxième place grâce à son succès 2-1 contre Reims. Le PSG s'est imposé tranquillement contre Ajaccio au Parc des Princes 5-0. Et puis sinon pour le maintien, Nantes n'y arrive pas avec son nul 0-0 contre Toulouse. De son côté, c'est bien Brest qui a fait la bonne opération en s'imposant 1-0 contre Auxerre. Puis pour la course à l'Europe, Lyon a fait la mauvaise opération en s'inclinant 2-1 à Clermont, tandis que Rennes empochait les 3 points 4-0 contre 3. De l'autre côté, il y avait 0-0 entre Monaco et Lille, puis Marseille-Angers. Vous connaissez le résultat, 3-1 pour les Marseillais. Ce soir, c'est Ligue des Champions. Et oui, c'est le derby de Milan entre l'Inter et l'AC Milan. Match très intéressant qui avait vu les interistes l'emporter 2-0 au match aller. Au niveau des compositions d'équipe, pas vraiment de surprise d'un côté comme de l'autre. Il y aurait une petite doublette en attaque de l'Inter, Lautaro Martinez et Edin Dzeko. Et puis du côté de l'AC Milan, voilà, il y avait des interrogations sur la présence ou non de Raphaël Lao et il sera bien présent contrairement à Ismaël Benacer qui est absent pour les 6 prochains mois. Sinon côté français, on a toujours Olivier Giroud, Théo Hernandez et Mac Maignan titulaire. Demain, ce sera le match retour entre le Real et Manchester City avec notamment donc le match aller qui s'est soldé par un résultat nul d'un partout. Faustin, on va passer au basket avec pas mal de choses à dire. Il nous reste 11 minutes, donc il va falloir faire quand même assez vite. On va commencer peut-être par la NBA. Okay. Une fois n'est pas coutume. Pour le coup, là, t'as encore une fois, t'as le choix. Est-ce que tu parles de la loterie de ce soir ou est-ce que tu parles des finales de conférence?
Je peux faire les deux, peut-être.
Oui, non, mais je veux dire en premier.
Je vais démarrer, d'accord. Je vais démarrer par les finales de conférence.
Vas-y, c'est parti.
Donc voilà, donc les demi.
Si je les veux avec tes pros, s'il te plaît.
Pas de souci. Donc les demi-finales se sont finies et on se retrouve avec exactement les mêmes affiches que lors de la bulle de 2020 qui avait lieu donc pendant le Covid. La bulle, c'était en fait le championnat NBA qui avait repris, mais à huis clos, c'était à Disneyland, à Orlando, où voilà les équipes.
Il y avait tout un protocole sanitaire,
exactement,
etc.
Voilà, jouer sans public, c'était assez spécial à regarder. À l'époque, les favoris étaient tout à fait différents. Car à l'ouest, on a donc l'affrontation entre Denver et les Lakers. Il y a 3 ans, les Lakers avaient fini premier du championnat et Denver avait fini troisième. Cette saison, c'est Denver qui a fini premier et les Lakers qui ont fini 7e en sortant du play-in. D'ailleurs, les Lakers ainsi que Miami, donc qui sont qualifiés à l'est, sont les premières équipes sorties du play-in tournament à passer un tour de play-off. Donc pour le coup, elles ont passé 2. Et ces 2 équipes d'un coup qui peuvent potentiellement même gagner un titre, on ne sait jamais. Et sur ces playoffs, ensuite pour revenir à l'affiche actuelle, Denver affiche un niveau de jeu qui m'a l'air bien supérieur à celui des Lakers. On l'a vu surtout dans la série des demi-finales donc contre les Phoenix Suns, qui était une série vraiment incroyable à voir. Tous les matchs étaient d'un niveau stratosphérique, sauf peut-être le dernier match où Denver s'est facilement envolé. À l'est maintenant, la finale de conférence oppose donc le Heat de Miami face aux Celtics de Boston. Donc sur le papier, je dirais que les Celtics sont plutôt favoris, mais dans le jeu, c'est peut-être un peu différent, car le Heat nous a bien surpris, car ils ont fini eux 8e en sortant du play-in. Ils ont d'abord dû se farcir les Bucks, qui étaient premiers, que personne ne voyait perdre au premier tour, beaucoup de personnes même les voyaient aller jusqu'en finale. Ils les ont sortis, et ensuite le match, donc leur demi-finale de conférence contre les Knicks, ça semblait être une formalité, hein. C'était banal. Ils les ont lavés, si je puis dire. Mm-hmm. Voilà, notamment grâce à un homme, Jimmy Butler, qui affiche un niveau de jeu durant ses playoffs tout à fait incroyable. Les Celtics ont, eux, contrairement aux Heat, ont été d'une grande irrégularité, j'ai envie de dire, durant ces deux séries. Heureusement que Jason Tatum, lors du Game 7 face aux Sixers, qui était dimanche soir, il bat le record de points sur un Game 7 qu'avait établi Stephen Curry il y a 2 semaines de cela, en mettant 51 points pour amener son équipe en finale de conférence. Donc, à mon avis, tu veux mon pronostic?
Oui, je veux bien.
J'aurais mis Denver qui passe à l'ouest sans grande difficulté, honnêtement.
Ouais.
Et à l'est, ça dépend vraiment de Jalen Brown et Jason Tatum, j'ai envie de dire,
ouais,
qui peuvent tout changer s'ils se réveillent un peu. Mais pour le show, j'ai envie de mettre le Heat qui ferait un parcours monstre en tant qu'outsider des playoffs. Ouais.
Ok, très bien, merci pour ces petits points aussi qu'on verra si tu as raison, si tu as tort. On va passer maintenant au judo avec les championnats du monde qui avaient lieu du côté de Doha au Qatar, avec évidemment les Français qui étaient évidemment épiés, avec notamment 2 têtes d'affiche qui n'ont pas déçu. C'est Clarisse Agbenienou et Teddy Riner qui ont tous les deux été sacrés champions du monde. Évidemment, ce sont des habitués des médailles d'or. Surtout ce qu'on attendait, évidemment, forcément, le plus médiatique, le porte on va dire le porte-drapeau de ce sport, de cette discipline, de cet art martial, c'est Eddie Rinner qui revenait en compétition officielle, on va dire, et qui revenait avec des ambitions, et il a gagné, c'est vrai, il a gagné cette médaille d'or. Il avait été plutôt bon lors des matchs précédents, la finale, et la finale a été un petit peu pas chaotique, mais elle a été un peu compliquée, quoi. Elle a été.
Il a jamais été bon dans la compétition.
Bah, il y a quand même il gagne un des combats au bout de 20 minutes.
Non.
20 secondes.
20 secondes, parce que 20 minutes, c'est un sacré golden score, là.
Oui, oui, c'est
mais,
ça.
Non, dans l'ensemble, moi,
T'es pas satisfait?
Je trouve que son niveau de judo est là, mais il a pas le physique.
Ouais.
Il a pas l'endurance, on l'a vu, hein, sur les golden scores. C'est compliqué, hein. Ouais. Et en finale, il gagne le titre parce qu'il y a eu une action avant qui aurait coûté le titre.
Bah, le mec en face se croyait champion du monde.
Ouais, mais en fait, il y a un mouvement de projection avec les jambes. Et en fait, son adversaire perd les appuis.
Ouais.
Et maintenant, débilité du règlement, si tu perds tes appuis, on va dire volontairement, et que tu marques, ça compte pas.
Ouais.
Donc forcément, bah, y a rien eu. Et derrière, voilà, c'est passé, mais de justesse. Même sur le quart de finale, moi, je l'ai trouvé à la peine, vraiment pas dedans.
Je crois que le premier match, c'est poussif aussi.
Ouais, non, c'est pour ça. Alors oui, c'est son 11e titre. Ça faisait 6 ans qu'il était parvenu en championnat du monde pour soit blessure ou soit indisponibilité, enfin ou soit.
Ouais.
Même non envie de sa part, enfin avec l'objectif des JO entre autres. Voilà, non, moi perso, il m'a pas forcément rassuré pour 2024. Hein.
Oui, t'es rassuré, mais quand même il a gagné, c'est plus important pour cette médaille, pour ce.
Ouais, mais enfin il y a pas la
est-ce
manière.
Est-ce que tu penses que lui il aborde comme vraiment un champion du monde classique, ou est-ce que c'est vraiment une préparation
Lui apparemment il l'a pris comme truc d'entraînement. Donc,
ouais,
déjà ça monte un petit peu, je sais pas trop si c'est.
Il y a peut-être un peu trop de pression d'ailleurs.
Je sais pas, ouais. C'est un peu bizarre aussi de se dire on fait un championnat du monde en mode ça va être une préparation. Non,
comme si c'était un entraînement, quoi.
Comme oui, si c'était un entraînement. C'est ça, ouais. Enfin, c'est un peu bizarre.
Ouais, c'est ça.
Et après, chose qui, tu vois, qui m'a un petit peu étonné, c'est que, pareil, pour le titre par équipe, donc c'était un mix. Il y a eu une fébrilité dans cette finale-là, enfin, mais aussi bien au niveau de l'arbitrage, enfin, qui a été compliqué, et même dans l'équipe de France, voilà, on aurait pu faire facilement un 4-1, 4-2.
Ouais.
Et finalement, on perd 4-3, je crois.
Ouais.
Donc après la finale qui s'est jouée en golden score, il y a des choses très bizarres aussi. Moi, je comprends plus du tout l'arbitrage du judo. Enfin,
ça a beaucoup changé.
Ouais, ça a vachement changé. Enfin,
à l'époque
où j'y étais, enfin, j'ai l'impression que des fois, le fait de tenter des choses, c'est même plus récompensé. Enfin, c'est bizarre. La France marque un très beau hippon. Et là, juste parce qu'il y a une main qui reste placée à un endroit, c'est refusé.
Ah ouais.
Enfin, j'arrive pas à comprendre. T'es dans l'action. On va pas masquer. Ouais. Enfin, ça me fait penser un peu comme les mains au foot maintenant, ou pour les défenseurs. Tu vois, c'est des choses très bizarres, je trouve, dans l'interprétation. Ouais.
Très bien. Bah, merci pour ce petit point judo. On aura peut-être évidemment le temps d'en parler avant les prochains Jeux Olympiques de Paris 2024. Je me suis rendu compte, Faustin, que je t'avais pas laissé finir sur le basket, puisqu'on n'a pas beaucoup de temps. Tu peux rappeler évidemment le rendez-vous de ce soir?
Ouais,
très tard.
À 2h30 dans la nuit, il y a la loterie, du coup, pour savoir quelles seront les places des équipes pour la draft de 2023, où sera donc Victor Wembanyama. Je rappelle peut-être les équipes qui ont le plus de chances, parce qu'il y a 3 équipes qui ont 14% de chance d'être tirées en premier. C'est Détroit, Houston, ainsi que les Spurs.
De San Antonio.
Voilà,
exactement.
Moi, j'annonce, ils signent ici.
Oh, pourquoi pas? Salut Faustin, peut-être. Allez, peut-être, pourquoi pas. Merci à tous de nous avoir suivis dans cette émission de Génération Sport. On se retrouve la semaine prochaine, évidemment, pour parler de sport sur Radio G. Et puis, on vous laisse avec la suite des programmes. Et on vous souhaite surtout une bonne soirée.
Il va falloir faire tout seul.